Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Bonjour, nous sommes à table avec Eric Pfifferling. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous entendez ces petites abeilles?
Oui.
Vous les reconnaissez?
Oui. C'était au début des années 70 avec mon père. Un essaim s'était posé devant le garage et il y a quelque chose qui s'est passé là, d'un coup. Le temps s'est arrêté. Mon père s'est passionné pour cette histoire et moi aussi. On a décidé d'un coup de récupérer cet essaim. On allait l'observer tous les jours au trou de vol, le trou de vol ou la planche d'envol. Et ça nous a tellement passionnés, je pense surtout mon père, qu'il a arrêté de faire le garagiste et il est devenu apiculteur.
Eric Pfifferling, on peut dire que vous êtes un vigneron du dehors.
Oui, on est une bande hein, quand même en France aujourd'hui. Je crois que c'est très important de dire qu'on est nombreux à défendre cette hypothèse de travail avec les chaussures pleines de boue et les mains noires, en fait. Hein. Il me semble que faire du vin est un rapport au temps, un rapport à la météo, un rapport au monde très, très, très important. Oui.
Alors, comment cet Eric Pfifferling, l'apiculteur alsacien?
Oui, hein. Oui, c'est d'origine allemande, hein, puisque Pfifferling signifie... presque rien, pas grand-chose, quoi, ça.
Alors, comment cet apiculteur devient un vigneron du dehors?
Eh bien, c'est une histoire assez intéressante, parce que moi, j'ai commencé par faire de l'apiculture avec mon père. Et petit à petit, je me suis intéressé à toutes les questions environnementales autour de l'apiculture. Tant et si bien que je me suis retrouvé comme ça un beau matin au service vétérinaire du département du Gard à m'occuper, à avoir en charge la prophylaxie apicole du département. Donc c'était quand même très passionnant hein, d'un coup. Et puis mon grand-père maternel est décédé en 1989. Et donc je me suis retrouvé... avec ma famille, qui a décidé un jour de me poser la question, peut-être moi qui étais passionné de la nature, que peut-être ces questions-là pourraient m'intéresser de travailler les vignes. Voilà. Et ça a été une chance de se...
Et vous n'aviez pas de formation agronomique?
Aucune formation. C'est encore là une histoire de rencontre et d'époque, puisque il se trouve qu'à ce moment-là, le papa de mon épouse était à la retraite, est un ancien vigneron. Et m'a aussi soutenu dans cette aventure de vigneron. Quoi. Je ne savais pas discerner un grenage d'un carignan. Hein. C'était vraiment une aventure. On partait tel un marin sur la mer, sans boussole, sans compas, sans rien. Quoi, hein.
Mais avec quand même la transmission.
Oui. La transmission et surtout la confiance des gens qui m'entouraient. Ça, c'était important d'avoir l'appui, La confiance est quelque chose de très précieux quand on a des gens qui vous entourent et qui vous disent « oui, tu peux quand même essayer, on te donne la chance ». C'est une perche qui est tendue, quoi. Ça, c'est important à notre époque, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, on leur tend pas trop la perche non plus, quoi. Et malgré tout, il y a des situations qui pourraient se débloquer.
Vous avez rencontré différentes personnes qui vous ont appris à regarder aussi. Vous aviez déjà intégré ça avec les abeilles, le regard sur la nature, le regard sur le temps qui passe.
Oui, l'apiculture est une formidable école pour vivre près de la nature, essayer d'observer, écouter, vivre au rythme des saisons, être prêt à se cultiver au niveau de la flore, tout ce qui entoure les floraisons, mais aussi les floraisons sauvages, de plantes d'espèces sauvages, mais aussi d'agriculture aussi, puisque l'abeille est en confrontation aussi avec l'agriculture. Et les agriculteurs ont besoin aussi de l'abeille, par moment. C'est une école d'observation, de patience. Je crois qu'en arrivant dans la viticulture avec ce bagage de l'apiculture, ça a été là encore aussi une chance.
D'air en air, l'apiculteur se mêle. Il a eu son heure, il a fait son beurre. Happy, apiculteur. D'air en air, l'apiculteur effleure la fin du labeur. Happy apiculteur. Dans une autre vie, les marguerites s'effeuillent au ralenti.
Alain Bachung, c'est une, une source d'inspiration pour l'apiculteur.
Ah oui. Oui, c'est des moments de plénitude. On écoute Bachung comme ça, en allant au rucher ou en allant aux vignes. C'est un beau moment quoi, de communion. Oui, tout à fait.
Comment ça se passe la journée du vigneron du dehors?
Il se lève bonne heure. Ou peut-être il peut se lever tard aussi, ça dépend ce qu'il a fait la veille. Mais en gros, il y a une forme d'inquiétude qui naît un petit peu au printemps parce qu'il y a tout qui arrive. Quoi. Alors c'est à la fois c'est un sentiment mêlé d'inquiétude et de plaisir puisque ce sont des promesses qui vont peut-être être tenues. Donc tout est possible. Il y a une naissance et en fait. À partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril, on tremble un peu parce qu'il y a mai, même jusqu'au mois de mai, on tremble. Il y a les gelées qui peuvent vraiment, d'un simple revers de manche, revenir. Et puis, voilà, c'est des fois pour certains une grosse perte de récolte lourde. Après, ben, il y a la floraison. Et ça, la floraison, c'est quelque chose de merveilleux. Le mois de mai, juin, on a ces odeurs qui sont totalement enivrante, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, parce que aller se promener dans les vignes en fleurs, c'est quelque chose de vraiment... On aurait vraiment envie de transmettre ces odeurs, que ce soit les différences entre un grenache, un cinceau...
Alors, quelles odeurs?
Des odeurs de violettes, d'agrumes aussi, hein, et que ce soit les cinceaux ou les grenaches ne répondent pas à la même chose.
Parce que cinceau, grenache, carignan, dans votre coin, c'est un peu la Sainte Trinité.
Oui, oui, oui. Ouais. Cinceau, grenache, carignan, c'est le triptyque ancestral qui a forgé aussi tous les vins des Côtes-du-Rhône. Hein. Méridionaux, parce que septentrionaux, c'est plutôt la Sierra. Ce mois de floraison, c'est un moment qu'on aimerait finalement enfermer dans la bouteille. Ce sont ces parfums-là qu'on aimerait enfermer pour que chaque fois qu'une bouteille va s'ouvrir, voilà, il y a une retranscription de ces arômes. Après, il y a le mois de juillet et son cortège de chaleur. Et ça, c'est assez étonnant parce que on se dit que nous, on subit la chaleur. On peut toujours se mettre un peu au frais. On se lève très tôt le matin. On travaille jusqu'à 13 heures. Mais la vigne, elle peut pas se déplacer. Donc, elle subit toutes ces intempéries, quoi.
Et on les arde à ce moment-là?
Oui, c'est le moment idéal.
Aristide Bruant connaissait en 1900 un garçon d'origine méditerranéenne qui était très sympathique et c'est un garçon, une nature d'ailleurs. Par exemple, il se levait le matin vers les 2 heures à peu près tous les jours et prenait d'abord un café pour commencer sa journée. Après, il traînait une petite heure et
il allait déjeuner. Après,
il reprenait encore un petit café et dès qu'il se sentait mieux, il faisait une sieste de 2 heures, pas plus.
Éric Pfefferling, c'est la vie du vigneron du dehors, ça, en été?
Oui, c'est beaucoup de temps à réfléchir, à lire, à observer ce que le millésime est en train de nous dire, parce qu'il nous enseigne, le millésime. Et l'été est un moment idéal pour l'écouter, pour se prendre un peu de répit, et pour pouvoir l'accueillir à la fin de l'été, au mois de septembre. Oui, c'est très important, ça aussi.
Et comme ça, on fait le lézard, on fait l'anglore.
Oui, on fait le... Bon, parfois, mais il y a des millésimes qui le permettent, d'autres un peu moins, quand même, hein, parce que il faut être quand même sur le perron le matin pour aller faire le tour des parcelles, voir si tout se passe bien, si on peut accompagner les choses sans trop les déranger, mais en essayant de les orienter quand on peut.
Alors comment on les oriente, ces choses?
Disons que, vous savez, dans l'histoire, il y a beaucoup d'éléments incontournables sur lesquels on n'a aucune prise. Ça serait très prétentieux de dire, je fais ce vin-là, comme ça. Non, je pense qu'il y a des moments donnés où on peut accompagner un millésime en essayant de lui offrir les conditions les plus favorables, quoi. Et du coup, c'est prendre du temps, c'est aller un peu ébourgeonner, repasser, visiter au quotidien le plus possible toutes les parcelles, essayer de regarder que l'herbe ne soit pas trop concurrente, essayer de prendre toutes les mesures qui vont faire que les raisins vont mûrir dans de bonnes conditions, en fait. C'est ça. C'est un travail d'observation.
Et l'expérience de l'apiculteur sur la vigne, qu'est-ce que ça donne de particulier?
Eh bien, on a, je crois, cette idée de la fleur. Autant j'étais un homme qui courait après les fleurs quand j'étais apiculteur, et j'ai été un homme qui a couru et qui court encore après les vignes pour essayer d'attraper ces parfums, quoi, pour les retransmettre dans la bouteille. Oui, c'est j'en étais pas réellement conscient, hein. Plusieurs personnes m'ont dit ça plus tard en me disant, c'est étonnant, ton expérience d'apiculteur doit certainement avoir une influence sur ton travail de vigneron. Mais c'est vrai que je suis extrêmement sensible aux arômes. Je pense même que le travail d'expression aromatique d'un vin est peut-être aussi, voire peut-être plus important que sa structure.
Est-ce que vous trouvez que les paysages sont sentimentaux?
Ça dépend où. Ça dépend où, mais le matin, c'est la promesse d'une journée nouvelle, avec un soleil qui se lève.
Fifferling, ce paysage sentimental de Debussy, joué par Aldo Ciccolini, qu'est-ce qui vous inspire?
Une certaine idée de communion. C'est une chance qu'on a en tant qu'agriculteur aujourd'hui de pouvoir profiter de ces moments qui nous sont donnés par la nature, sur les couchants. Un matin avec un soleil levant au mois de juin, c'est quelque chose sur le Mont Ventoux, c'est avec ces bleus fondus, c'est quelque chose de, c'est ça, c'est un air de mélancolie, de plaisir, de bonheur, de moments presque privilégiés, quoi. Il faut le reconnaître. Et c'est quand même un angle très particulier pour les agriculteurs aujourd'hui, parce qu'on parle pas de ça, on parle d'économie. Et ces paysages, ils me nourrissent. Ils nourrissent mon travail d'agriculteur. Ils font partie de mon exploitation. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas le vigneron que je suis si je n'avais pas ces paysages, si je n'avais pas les minéraux, si je n'avais pas le vent violent, si je n'avais pas le froid sur le sécateur, si j'avais pas cette chaleur épouvantable, ces sentiments que j'éprouve quand je suis en confrontation avec cette météorologie et ces paysages autour de moi qui m'environnent, cet écosystème, et qui me donne l'envie de faire ce que je fais. C'est ça qui me nourrit, vraiment.
Si vous étiez un arbre avec Pfefferling, quel arbre seriez-vous ?
Oh, je serais un cadre. Un cadre.
Pour le parfum ?
Oui, tout à fait, oui. Il suffit.
Pour le parfum qu'on met dans le lin, justement,
exactement.
Dans la région d'Avignon. Pour,
Ah, c'est une odeur très singulière. Ah, le poids de cadre, on fait des manches de couteau d'ailleurs. J'en ai encore. J'ai un couteau dans ma poche qui est en bois de cadre. Le cadre, c'est. On peut couper un bois et 3-4 ans après, le bois sent encore. Il suffit de le gratter un petit peu et il y a cette odeur qui se répand dans toute la pièce. Une odeur de résineux. Il y a aussi cette odeur de garrigue qui est omniprésente. En fait, quand on marche dans la garrigue, on a ces odeurs de cadre qui sont pas très éloignées. Il suffit qu'on passe le long d'une broussaille et qu'on passe à côté d'un arbre comme celui-ci. De suite, ça embaume, ça relargue énormément.
On le retrouve dans le vin, ce parfum de cadre.
Paradoxalement, peu. On sent plutôt les odeurs de empyromatique, plutôt de brûlé, de je dirais presque des odeurs de garrigue, quoi. Alors ça peut passer par plein d'essence de garrigue, effectivement, quoi. On est dans le thym, romarin, laurier. Laurier est un arôme qui revient souvent dans le vin. On a beaucoup de vignes, nous, en fait, une petite propriété, mais on a beaucoup de vignes qui sont en bordure de garrigue et qui s'imprègnent. Il y a un dialogue qui s'instaure comme ça entre la garrigue et les vignes. Et on peut pas imaginer que dans le sud, avec ces chaleurs torrides, il y a aussi un dialogue dans la terre, dans le sol. La garrigue retient un petit peu, par ses réseaux quartiques, un petit peu d'eau qui restitue aussi aux terres plus bas qui est de l'agriculture. Donc tout ça, c'est dissimulé, on le voit pas, et pourtant tout ça discute et dialogue ensemble, quoi.
Oui, c'est ça la biodynamie.
Oui, oui, certainement. Je suis pas un spécialiste, mais il doit y avoir des résonances autour de ça. Ouais.
Et l'eau et le vent vous parlent aussi. Vous communiquez avec l'eau et le vent.
Communiquer, ça serait très prétentieux, mais l'eau est un élément très important. La maîtrise de l'eau aujourd'hui est un enjeu important pour nous dans le sud. C'est vrai qu'on peut passer 2 mois sans eau et se dire mais comment va se passer la récolte, hein. Et ça s'est produit en 2003 par exemple, où il a fait très chaud et sec, on a récolté pas grand chose, mais c'était extrêmement aromatique. Le vent, c'est notre histoire. On vit avec le vent. On est dans une des régions à côté d'Orange les plus ventées, hein. C'est, je crois, qu'un des endroits de France où il y a le plus de vent. Au début, c'est pas évident, mais après. Oui, ça nous donne une façon de travailler. Je crois que tous ces éléments, ce sont des indications qui font que le métier d'agriculteur a un sens. On ne lutte pas contre. On se sert de ce vent, on se sert de cette chaleur, on se sert de l'eau pour pouvoir œuvrer. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Kruger.
Ya habibi, ma hilati, ma qtidari. ربي الأفلاك في الكون جاري يا حبيبي يا حبيبي كل Yeah.
Oui, ce sont les vers d'Omar Khayyam par Azrieh. Ça me rappelle une histoire très, très singulière et parallèle aussi. Enfin, c'était André Benedetto, qui est un poète tavellois.
De Tavel.
Ouais. Qui aussi avait.
De chez
fait,
vous.
Oui, qui avait fait le cabaret d'Omar pour le Festival d'Avignon, une pièce justement autour des poèmes d'Omar Khayyam. Alors, je parle d'André Benedetto parce que ce sont des formidables rencontres pour nous agriculteurs, que ce soit les poètes ou les restaurateurs qui nous ont aussi beaucoup donné à déguster des vins, des mets, à manger des nouvelles choses, qui nous ont ouvert l'esprit, qui nous ont donné beaucoup d'appétit. Et puis, je voudrais aussi parler de Frère Roger à Tavel qui nous a aussi beaucoup enseigné. La patience, ce qu'on vient de dire, hein, le temps et de savoir observer les choses quand elles se présentent. Oui, effectivement.
Ce frère Roger, donc, c'est une communauté de missionnaires.
Oui, c'est les missionnaires de la Sainte Famille, qui est toujours un ordre religieux, effectivement, de l'Église catholique. Et donc à Tavel, il y avait donc une mission.
L'une des missions, c'était de faire du vin.
Tout à fait. Frère Roger donc a fait 50 millésimes au château de Magnissi à Tavel. 50 millésimes entrecoupés par une période de guerre d'Algérie. Et c'est un type qui est vraiment assez étonnant, quoi. 83 ans, l'œil malicieux, toujours vif, toujours à discuter autour du vin, sur les problématiques, sur ce que le temps nécessite aussi au vin. D'ailleurs, il a des phrases absolument merveilleuses. Il dit on fabrique des vieillards prématurés aujourd'hui, par exemple. Quoi. C'est... Il a d'autres passages où il dit les moments où il faut que le vin soit en friction avec l'air, de façon à ce qu'il puisse s'épanouir, à trouver sa place dans le verre. Voilà, c'est des mots qu'on n'entend plus beaucoup. Hein. C'est des gens qui savaient attendre le vin. Et qui patinait les choses, quoi, dans un moment un peu de célébration. C'est étonnant, hein, on boit des vieux millésimes encore de Magnissi qui racontent une histoire. C'est étonnant. Aujourd'hui, dans ce sacre du présent où il faut effectivement boire les vins de suite, on peut pas les garder, on n'a pas assez de place. Lui, il ouvre d'une manière curieuse puisque son expérience a fait qu'il a été un petit peu, comme il dit, parachuté dans différents endroits. Et du coup, il dégorge ses vins pour enlever les lits. Ce sont des vins qui sont non filtrés. Il ouvre des bouteilles des années 60 ou 70. Et ces vins racontent une histoire.
Et ces vins ne vous disent pas, comme dans le film de Wim Wenders, Les ailes du désir, ils ne vous disent pas, nous sommes si jeunes, nous ne pouvons pas attendre. Alors, on était en été, mais après, on ne peut pas attendre, il y a les vendanges.
Oui, il y a l'impatience d'accueillir le millésime et d'être prêt. Est-ce qu'on sera à la hauteur, à sa hauteur? Est-ce qu'on saura l'accompagner? C'est vrai qu'on est parti sur des façons de travailler un peu anecdotiques et grâce encore là aussi à des rencontres qu'on a eu la chance de faire. De vigneron en vigneron, hein, ça se transmet.
De transmission. Marcel Lapierre.
Encore une fois, oui, tout à fait. Oui, c'est une pépite, hein, c'est incroyable. On a l'impression de recevoir. Est-ce qu'on sera autant donné que ce qu'on a reçu? Ça c'est une vraie question. Et ce millésime, il est, on l'a suivi tout le long. C'est un enfant qui arrive, en fait. Hein, c'est assez étonnant de le personnifier, mais c'est réellement ce qui va se passer. Et on va l'accompagner, on va l'écouter, on va cueillir le raisin dans des petites caisses, on va les mettre dans des cuves, on va mettre tout ça en macération et puis on va laisser œuvrer encore une fois le temps.
Et surveiller.
Et le surveiller, bien sûr, mais sans interventionnisme, que ce soit chimique ou physique. On va pratiquement faire des infusions de raisin, tout simplement. Et dans le meilleur des cas, ça se passera bien. Dans le pire, on peut perdre un petit peu quelques cuves. Mais bon, ça met jamais en danger l'exploitation. Enfin, l'exploitation, j'aime pas dire l'exploitation, je dis plutôt la ferme, parce que on n'a pas parlé de ce mot aussi, de cultivateur, plutôt que d'exploitant agricole. Ça, c'est quelque chose aussi.
Oui, le cultivateur, c'est celui qui cultive la terre et qui nous cultive.
Oui, c'est ça. Ça fait appel aux deux. On cultive la terre, on se cultive, comme on peut cultiver de la connaissance. C'est vrai qu'on fait pas trop attention aux mots, mais mon grand-père, sur sa carte grise, il avait une vieille de Diane et il y avait marqué dessus, il y avait toujours les professions sur les cartes grises. Et c'était marqué cultivateur. Et aujourd'hui, on est des exploitants agricoles, quoi. Et ça, moi, je me sens pas bien avec cette dénomination.
Vous préférez vigneron du dehors?
Oui, vigneron du dehors, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est, il y a plein, je crois que c'était Sylvie Augereau qui avait parlé de cette histoire-là, de vigneron du dehors, qu'elle défendait d'ailleurs, et qu'elle continue à défendre. Et oui, on est proche de tellement de choses qui sont pas aujourd'hui dans cette époque, quoi. Alors, oui, cultivateur, ça me va mieux, ouais.
Je vous propose d'écouter David Grimal dans les 4 saisons d'Astor Piazzolla, le groupe Les Dissonances. Merci beaucoup, Eric Pfifferling. Merci de nous cultiver.
Ben merci, merci Alain. J'espère avoir ouvert une petite fenêtre pour que les gens soient intéressés par cette posture, ce métier d'agriculteur qui a tant de ressources et tant de choses à découvrir. Ça peut donner un peu l'envie à certaines personnes.
Si seulement il faisait du soleil cette nuit. André Breton.
Fais attention, hein. 3, 4. Tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Jean-Louis Deloncle, le mixage de Stéphane Touvenin et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1000 nuits. Vous pouvez aussi la télécharger sur le site de France Culture et dans quelques instants, le journal. Hey, hey, hey.